En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'Académie des sciences morales et politiques, dans le cadre du mécénat de la Fondation Simone et Cino del Duca, se penche sur le thème de la guerre et de la société. La Fondation Simone et Cino del Duca, abritée au sein de l'Institut de France, a permis d'organiser un colloque international le 17 et le 19 janvier 2013. Une vingtaine de participants se sont réunis autour du thème de la guerre et de la politique. Le premier volet d'une démarche scientifique interdisciplinaire qui durera 3 ans. Le point de vue comparatiste y est de règle, incluant ainsi toute l'aventure humaine. Ainsi seront abordées, lors des prochains colloques, les thématiques de la guerre et de la religion, la guerre et l'art, la guerre et l'économie. Autant de déclinaisons de manière à construire l'objet guerre comme un objet scientifique dans toutes ses dimensions, comme le souhaite l'initiateur de ce colloque Jean Béchler de l'Académie des sciences morales et politiques au sein de la section sociologie. Guerre et politique est donc le premier colloque international de cette aventure intellectuelle. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de l'intervention de Gilbert Guillaume, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, ancien président de la Cour internationale de justice et conseiller d'État honoraire. Il a intitulé sa communication « La guerre et le droit ».
Je vous remercie, Madame le Président. Je dois intervenir sur le thème « La guerre et le droit ». Alors évidemment, ces deux termes, à première vue, sont un peu antinomiques, parce que la guerre, c'est la violence, et le droit, c'est la recherche de la paix. Et justement, le droit s'intéresse à la guerre parce qu'il cherche à l'humaniser. Alors, il s'y est intéressé de deux manières au cours de l'histoire et dans la situation actuelle. La première, il s'est interrogé sur la légitimité de la guerre. Et la seconde, il s'est interrogé sur la conduite de la guerre, sur les limites, donc sur le recours à la violence et sur les limites de ce recours. Alors, les juristes, qui sont des gens conservateurs à tous égards, ont mis ça en latin, en distinguant ce qu'on appelle le jus ad bellum et le jus in bello. Alors, le jus ad bellum, d'abord. Alors, le premier point très important, compte tenu de ce qui a été dit, c'est que ce problème du recours à la force armée n'a jamais été considéré qu'en ce qui concerne les relations entre États et en ce qui concerne les guerres entre États. Pour une raison très simple, c'est que aller s'interroger sur la légitimité de l'insurrection, de la guerre civile, etc., au regard du droit international est quelque chose de tout à fait illusoire et par conséquent qui n'a pas mobilisé, je dirais, la pensée des juristes. Elle a mobilisé la pensée des politiques à travers la décolonisation, à travers le droit à l'insurrection, etc., etc. Mais sur le plan du droit concret, du droit positif, il n'y a rien. Par contre, sur le plan de la question de savoir si la guerre est un moyen légitime d'action pour les collectivités, pour les États, il y a eu une réflexion qui a fini par aboutir à un droit. Le point de départ, c'est que dans le droit traditionnel, classique, la guerre est légitime. La guerre est un moyen pour un État d'atteindre ses fins, de la même manière que la négociation est sur le même plan. Alors, les juristes espagnols au XVIe siècle avaient essayé de transposer en droit international la distinction de la guerre juste et de la guerre injuste, enfin de partir de saint Thomas d'Aquin. Ils ont totalement échoué. Ça n'est pas passé dans le droit positif. Et en réalité, si on se place, disons, à la fin du XIXe siècle, la seule règle qui existe en ce qui concerne le recours par les États à la guerre, la seule règle qui existe, c'est la déclaration de guerre. On ne fait pas la guerre sans se l'être déclaré. Ce qui était un peu formel, ce qui avait l'avantage de donner un point de départ aux choses, ce qui évitait la guerre surprise, mais enfin, ça n'allait tout de même pas très loin. Et c'était la seule règle, il n'y avait pas d'autre. La Première Guerre mondiale, évidemment, va, avec toutes les les souffrances et toutes les morts qu'elle a causées, va amener une réflexion sur le sujet, qui va conduire à la constitution de la Société des Nations, en vue d'essayer d'assurer une sécurité collective permettant d'éviter le recours à la force armée, d'une part, d'autre part, essayer de généraliser l'arbitrage et la justice internationale, l'idée étant qu'on assurera la paix par la justice. Et puis, il y aura même des déclarations solennelles, dont le pacte Briand-Kellogg, prohibant le recours à la guerre. Ce sera un échec, nous le savons tous. Ce sera un échec parce que la Société des Nations n'aura pas les moyens d'action nécessaires, parce que l'arbitrage et le recours au juge ne sont pas l'unique moyen. On ne peut pas, à travers ce moyen, réussir à éviter les guerres. Ce sont des possibilités offertes pour essayer de résoudre des conflits. C'est extrêmement utile, mais toutes les guerres n'ont pas leur origine dans des différends qui peuvent être soumis aux juges. Elles ont bien d'autres origines. Alors, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a la Charte des Nations Unies. Alors là, on prend le taureau par les cornes, si je puis dire. On prend le taureau par les cornes, d'une part, en commençant par mettre la guerre hors la loi. La charte proclame clairement, dans son article 2, paragraphe 4, si j'ai bon souvenir, je vais le retrouver, elle proclame clairement que, oui, c'est le paragraphe 4, les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force. Alors, en même temps, la charte, évidemment, essaye de mettre sur pied un système de sécurité collective pour permettre à ce système de tenir. C'est la constitution du Conseil de sécurité. C'est la constitution du Conseil de sécurité avec des pouvoirs importants en vertu de l'article 7 de la charte, puisqu'il peut prendre des décisions allant jusqu'à l'utilisation de la force armée contre les États agresseurs. On a donc un système qui est mis sur pied. Alors, en même temps, on va essayer de favoriser la justice internationale, on va remettre sur pied la Cour internationale de justice, et on a ainsi, pense-t-on, une panoplie qui permettra d'éviter les erreurs commises entre les deux guerres. Bon. Alors, je ne vais pas faire d'histoire du Conseil de sécurité, il est évident qu'il a eu des succès et qu'il a eu des échecs. Il y a eu les deux. Mais il a joué tout de même un certain rôle utile dans un certain nombre de cas. Mais il n'a pas empêché qu'il y ait des conflits armés, qu'il y ait des guerres. Celles-ci se sont généralement appuyées pour justifier leur existence sur l'article 51 de la Charte. Parce que tout en mettant sur pied ce système de sécurité collective, tout en rendant obligatoire le règlement des différends par le juge, la Charte, en même temps, réservait le droit de légitime défense. De la même manière qu'en droit interne, ce droit est réservé, la charte, en son article 51, disait qu'aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée. Alors évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Dans tous les cas où il y a eu des guerres, eh bien, chacun a dit qu'il avait été agressé par l'autre et que par conséquent, il était dans une situation où il pouvait se défendre légitimement en vertu de l'article 51. L'article 51 ajoutait que les États devaient faire rapport immédiatement au Conseil de sécurité qui pourrait prendre les mesures nécessaires pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ça s'est passé dans quelques cas, mais ça n'a pas eu de... pas toujours, je ne rentre pas dans le détail. Donc, si vous voulez, au niveau du jus ad bellum, la situation est tout à fait claire en droit. Le recours à la force armée n'est plus légitime pour les États. Le système de sécurité collective a été mis sur pied, il a fonctionné de manière plus ou moins satisfaisante. Et enfin, il reste le droit de légitime défense qui a été l'échappatoire par lequel ont été justifiées les guerres qui ont pu avoir lieu. Voilà pour ce qui est, je dirais, du jus ad bellum. Le jus in bello, lui, posait des problèmes différents. Initialement, le droit s'est préoccupé essentiellement des rapports entre États, là aussi. Et notamment des rapports entre belligérants et de la situation des États neutres. C'était la situation du droit, je dirais, au début du XIXe siècle et dans les décennies qui ont suivi. Rapport entre les belligérants, rappel des ambassadeurs, situation des locaux diplomatiques, situation des traités, etc., etc. Situation des États neutres, garantie leurs droits. Et puis, il y a eu une évolution à partir, cette fois-ci, du milieu du XIXe siècle. Il y a eu une évolution en vue d'essayer de protéger les personnes au cours de ces conflits armés. Le point de départ, ça a été la guerre de Crimée. Il y a eu une déclaration de Paris en 1856 sur la guerre navale, qui est toujours applicable et qui notamment interdisait la guerre de course. Ça a été la fin des corsaires. Et puis un certain nombre de règles concernant la protection des navires neutres. Le pavillon couvre la marchandise, etc. Et puis ensuite, étape plus importante, Solferino, 1864, une bataille qui a créé qui a causé beaucoup de morts et de blessés, qui ont été mal soignés sur le champ de bataille, initiative de Dunant, et première convention de Genève de 1864, qui concerne exclusivement le problème des blessés, des malades et du personnel sanitaire. Et puis, tout le système va évoluer dans deux directions. D'abord, pour toute une série de conférences du début du XXe siècle, 1899-1907, les conférences de La Haye, qui sont des conférences qui portaient essentiellement sur la conduite des hostilités, notamment la conduite des hostilités sur terre et sur mer, il n'y avait pas d'aviation encore à l'époque, pose un certain nombre de règles et ayant pour objet d'éviter les dommages aux populations civiles, les dommages excessifs aux combattants, etc. Seulement, malheureusement, ces conventions de La Haye comportaient une clause, là encore on retombe dans le latin, qui s'appelait la clause si omnes, c'est-à-dire elle disait que si dans une guerre il y avait un État qui ne les avait pas ratifiés, ben les autres étaient plus tenus d'appliquer les conventions, ce qui évidemment en limitait singulièrement la portée. Alors, le droit va évoluer au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, là encore. Et en 1949, vont être signées quatre grandes conventions à Genève, où la clause si omnes va disparaître. Une sur les blessés et malades, une sur les prisonniers, une sur les populations civiles. Les blessés et malades, bizarrement, il y a deux conventions. Il y en a une sur la guerre terrestre, l'autre sur la guerre navale. Bon, mais ça ne change rien. Les prisonniers de guerre et les protections des populations civiles. Alors, ces conventions sont été ratifiées à l'heure actuelle par pratiquement tous les États du monde. On peut considérer qu'elles forment la base de la conduite des hostilités sur terre, sur mer, et du traitement des combattants, d'une part, et des populations civiles, de l'autre. Elles ont été modifiées par deux protocoles de 1977 qui marquent un début d'évolution intéressant dans la lumière de ce qui a été dit tout à l'heure. Les conventions de La Haye, bien entendu, ne s'appliquaient, et les conventions de Genève également, que dans les conflits entre États. Le droit ne connaissait rien d'autre. Et en 1977, on va adopter un protocole numéro 2 aux conventions, qui va essayer d'élargir la portée de ces conventions dans les guerres qui ne sont pas des guerres interétatiques. Mais avec une définition qui est assez restrictive tout de même, n'est-ce pas ? Je crois qu'elle est intéressante de la citer compte tenu de la discussion que nous avons eue tout à l'heure. L'extension de ces conventions de Genève à des guerres non étatiques concerne les conflits armés qui se déroule sur le territoire d'une partie contractante, entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent protocole. En d'autres termes, il s'agit en gros du cas d'une guerre civile, n'est-ce pas, dans laquelle il y a, face au gouvernement en place, une force organisée et responsable. Ça ne couvre pas d'autres situations. Pour une raison très simple, c'est qu'il faut avoir évidemment, pour l'application de ces textes, eh bien, des responsables en face qui soient susceptibles de les appliquer et de sanctionner ceux qui ne les appliqueraient pas. Alors ensuite, après 1949, il y a eu toute une série de conventions, je dirais, ponctuelles, qui ont soit eu pour but de protéger certains biens, par exemple la protection des biens culturels, soit pour but d'interdire certaines armes, les armes chimiques, les mines antipersonnelles, les armes à sous-munitions, les armes d'effet traumatique excessif, etc., qui sont des conventions ponctuelles portant sur des armements déterminés, qui ont été ratifiées plus ou moins largement selon les cas. Voilà, si vous voulez, l'évolution historique. Alors, à partir de là, quel jugement peut-on porter sur cette situation ? En ce qui concerne la conduite des hostilités, d'abord, en ce qui concerne le droit des victimes, d'autre part, et en troisième lieu, en ce qui concerne le contrôle du respect de ces obligations. La conduite des hostilités, ce qu'on appelle le droit de la haie, là, il y a toute une série de règles parfaitement précises concernant la guerre sur mer et la guerre sur terre. Par contre, on n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur le moindre texte concernant les guerres aériennes. Et la Seconde Guerre mondiale, de ce point de vue-là, a évidemment posé problème, et la situation actuelle pose toujours problème. Tout au plus peut-on... y a-t-il, n'est-ce pas, l'idée qui a été développée par la Cour internationale de justice, selon laquelle il existait quand même des règles coutumières qui étaient applicables à toutes les formes de conflits et qui étaient celles posées par l'article 3 des 4 conventions de Genève, qui énumère, disons, un certain nombre de règles fondamentales, telles que le traitement avec humanité des personnels des forces armées qui auraient déposé leurs armes, l'interdiction de la prise d'otages, l'interdiction des atteintes à la vie, à l'intégrité corporelle, par les mutilations, traitements cruels, tortures, etc. Il y a un certain nombre de règles de base que la Cour internationale de justice a posées comme étant applicables en toutes circonstances au conflit armé. Le droit humanitaire, c'est-à-dire le droit de... Alors si, pour ajouter un point important... La question s'est posée de savoir, du point de vue de l'emploi des armes, quelle était la situation des armes nucléaires. Et l'Assemblée générale des Nations unies a demandé l'avis de la Cour internationale de justice sur ce point. La Cour, partant du droit humanitaire classique, a rappelé les règles de ce droit, notamment le fait qu'il était interdit d'utiliser des armes qui ne permettaient pas de différencier entre objectifs militaires et objectifs civils. Et que donc, il y avait un problème. Mais elle a ajouté, par un vote partagé, 7 contre 7, avec la voix des partageants du président algérien, elle a ajouté que dans des circonstances extrêmes où la vie des nations était en cause, elle ne pouvait pas se prononcer en l'état actuel du droit international. Ce qui est compréhensible, parce qu'il n'y a pas de convention sur l'emploi des armes nucléaires. La seule convention applicable, c'est évidemment le traité de non-prolifération, mais qui a pour objet d'éviter que de nouveaux États se dotent de l'arme nucléaire, mais qui ne règle pas le problème de l'emploi de ces armes. Voilà pour le droit sur la conduite des hostilités. Alors, ce droit, au cours de la Seconde Guerre mondiale, a été respecté dans des conditions variables. Il est évident que dans les guerres, je dirais, de type conflit interne, où il n'y a pas d'organisation responsable face aux États, il n'est pas respecté de manière tout à fait satisfaisante, c'est le moins qu'on puisse en dire. Alors, deuxième question, le droit humanitaire, celui sur la protection des combattants, d'abord lorsqu'ils sont blessés ou prisonniers, et ensuite des non-combattants, il y a eu de plus en plus une difficulté à distinguer combattants et non-combattants. De ce point de vue-là, les conventions de Genève posent des règles qui sont simples, c'est qu'un combattant doit se présenter comme un combattant. Et que si ce qu'on appelle des ruses de guerre sont autorisées, la perfidie ne l'est pas. Exemple de ruse de guerre, le cheval de Troie, ça c'est une ruse de guerre autorisée. Mais le fait de, par exemple, prendre le drapeau d'un négociateur ou de prendre le drapeau de la Croix-Rouge pour combattre ensuite sous ce drapeau, ça c'est une perfidie qui est interdite. Bon. Donc là, ce droit est assez généralisé. Le problème qu'on a rencontré, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'avec la confusion de l'emploi des mots « guerre », eh bien, il y a eu une tentation parfois à échapper à ces règles. Je crois que l'exemple le plus caractéristique, c'est Guantanamo. Les États-Unis ont déclaré qu'ils faisaient la guerre au terrorisme, ce qui juridiquement était tout à fait inexact. Il n'y a pas de guerre au terrorisme, il ne peut y avoir que des guerres entre États. Ils faisaient donc la guerre au terrorisme, ils en ont déduit que puisque c'était une guerre d'un type particulier, les conventions de Genève n'étaient pas applicables et qu'ils pouvaient envoyer tout le monde à Guantanamo sans se soucier de l'application notamment de la convention sur les prisonniers de guerre. La Cour suprême des États-Unis, comme vous savez, a censuré l'administration américaine quelques années après, il a fallu du temps, ça c'est son troisième arrêt, en disant que se ralliant au point de vue de la Cour internationale de justice et en disant que l'article 3 commun aux conventions de Genève était applicable à Guantanamo. Là, je crois qu'il y a un point qui est important, c'est que de voir qu'à travers la confusion du vocabulaire, il y a un risque d'échapper aux règles de droit et qu'il faut faire très attention à ça. Un autre élément important dans cette perspective, c'est le droit de l'occupation. Conventions de Genève règlent le droit de l'occupation en limitant les pouvoirs de la puissance occupante. Un problème s'est posé devant la Cour internationale de justice qui était celle de la construction du mur par Israël sur le territoire palestinien occupé. Je dis bien sur le territoire palestinien occupé puisque ce mur ne suivait pas la ligne verte qui était celle qui précédait la guerre de 1967, mais était un mur qui se trouvait en bonne partie en Cisjordanie, sur le territoire palestinien occupé. Et la Cour, à l'unanimité, sauf le juge américain, a jugé que l'action d'Israël était contraire au droit international relatif au régime de l'occupation, parce qu'il apportait des modifications très fondamentales à la situation du pays qui n'était pas compatible avec ce droit. Je dis sauf le juge américain, mais je dois ajouter que le juge américain n'a pas dit que c'était conforme au droit. Il a dit que du point de vue procédural, on n'aurait pas dû répondre. Ce qui est une quasi-unanimité tout de même. Voilà quelques éléments là-dessus. Alors un problème fondamental, évidemment, c'est le problème du contrôle de l'application de ce droit. Alors les conventions de Genève prévoient la possibilité d'intervention de ce qu'on appelle des puissances protectrices qui peuvent s'assurer du respect du droit par les belligérants. C'est une disposition qui était appliquée pendant la Seconde Guerre mondiale. La Suisse et la Suède ont joué le rôle de puissances protectrices dans l'Europe occupée. Mais c'est une disposition qui n'est pratiquement plus appliquée. Pour une raison d'ailleurs très paradoxale, c'est que les puissances protectrices sont, d'après les conventions, des pouvoirs assez vastes et que, par conséquent, les États n'ont pas voulu voir ces puissances protectrices intervenir de manière trop affirmée. Et le système qui est prévu également par les conventions, à défaut de puissance protectrice, c'est l'intervention du Comité international de la Croix-Rouge, qui, lui, fonctionne sur la base d'accords spécifiques dans chaque cas, avec des règles très particulières, notamment concernant la confidentialité de ces interventions, et qui a mené dans un certain nombre de conflits récents, certainement a eu un rôle tout à fait positif. Au-delà de ces contrôles, un certain nombre de conventions prévoient des procédures d'enquête qui, en fait, n'ont pas jamais mené très loin. Et il reste tout de même les problèmes de responsabilité. Responsabilité des États qui pourraient être engagés et responsabilité pénale des personnes qui commettraient des crimes de guerre, soit devant les juridictions nationales. Il ne faut pas oublier qu'il y a des tribunaux militaires dans un certain nombre d'États qui ont prononcé des condamnations contre des militaires qui ne respectaient pas les règles des conventions de Genève. On a eu des exemples aux États-Unis. Soit devant la Cour pénale internationale, qui a compétence en ce qui concerne les 100, ça doit être 108 maintenant, États qui ont ratifié la Convention de Rome, qui a compétence pour connaître un certain nombre d'infractions, dont un certain nombre de crimes de guerre qui correspondent pratiquement aux crimes les plus graves des conventions de La Haye et de Genève. Et là, il y a des instances qui ont été engagées. Le problème, c'est qu'elles touchent à l'heure actuelle exclusivement des cas africains, ce qui, évidemment, pose diplomatiquement et politiquement un problème, dans la mesure où les Africains ont tendance à dire que c'est une justice qui fonctionne uniquement contre eux. Mais ceci est lié à deux phénomènes. Le premier, c'est qu'un certain nombre de grands États, les États-Unis, l'Inde, la Chine, la Russie, ou d'États qui pourraient avoir des problèmes, Israël, par exemple, n'ont pas ratifié la Convention de Rome. Ils sont en dehors. Et par conséquent, les États qui les ont ratifiés sont essentiellement des pays européens et africains, et que la conduite des hostilités en Europe n'a pas conduit à de grands problèmes, encore qu'il y en ait eu un très évident, qui a été le bombardement de la radio-télévision serbe au cours des opérations du Kosovo, dont la licéité au regard du droit international est certainement sujet à caution. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous exposer, je dirais, la situation de droit telle qu'elle se présente en ce qui concerne la conduite des hostilités. Il y a des règles. Ces règles n'ont pas toujours été respectées. C'est l'éternel problème de la bouteille à moitié pleine et de la bouteille à moitié vide. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas toujours été respectées qu'elles n'ont pas parfois été respectées et qu'elles n'ont pas, de ce point de vue-là, eu quand même des conséquences heureuses. On n'est pas au bout de l'affaire. Il est évident qu'il faut encore améliorer les choses. Alors, question tout de même posée, ces règles doivent-elles être élargies pour couvrir non seulement les guerres interétatiques, mais encore, et non seulement les guerres civiles au sens où je le précisais tout à l'heure, mais tous ces conflits armés divers et variés qui se sont multipliés à la surface de la planète. Je crois que non, personnellement, parce que je crois que ce genre de problème doit être résolu par d'autres voies. On parlait tout à l'heure du Cambodge et du génocide cambodgien. Bon, ben, c'est un génocide. C'est un génocide. Encore que du point de vue de la définition, on puisse avoir il y a quelques problèmes juridiques qui se posent. Mais il y a des génocides et il y a des responsabilités internationales et pénales à établir. Mais ce n'est pas dans le cadre du droit de la guerre, c'est dans un cadre différent. De même, vous faisiez allusion au problème d'intervention illicite contre l'aviation civile et des aéroports ou des avions qu'on fait sauter. Là aussi, il y a des conventions, il y a des règles à appliquer, il y a des poursuites pénales à organiser, mais ce n'est pas du domaine du droit de la guerre. C'est du domaine de la coopération entre États dans la lutte contre la criminalité. Voilà ce que je peux apporter à votre réflexion. Et le droit est une technique conservatrice, c'est bien connu. Il a tout de même évolué dans les 100 dernières années de manière sensible en ce domaine. Il a encore des progrès à faire, espérons qu'il les fera.
Vous venez d'entendre la communication de Gilbert Guillaume, La guerre et le droit, lors du colloque international Guerre et politique, une initiative de l'Académie des sciences morales et politiques. Le colloque s'est déroulé du 17 au 19 janvier à la Fondation Simone Cino del Duca. Retrouvez prochainement l'ensemble des interventions de cet exceptionnel colloque international sur Canal Académie.